Chronique de la désobéissance. Prendre le large. Si, d'après Charles MacDonald, dans l'autorité sans le pouvoir, une caractéristique de l'être humain est sa grégarité, son conformisme avec ses pratiques de coopération et d'entraide, fondement de toute vie collective, ces valeurs sont toutefois contrebalancées par une capacité de liberté individuelle qui peut virer en égoïsme ou en goût de la domination. Pour cette dernière possibilité, ce ne fut pas le cas de Georges Valadas, qui relate dans « Itinéraire du refus » un long apprentissage de l'enfance au temps de l'obligation militaire. Nous sommes au Portugal à la fin des années 1950. À l'image des gens relativement aisés, ses parents, professeurs de collège technique, ont une bonne. Pour Georges, ses rapports de servitude font partie de sa vie de tous les jours, mais divers incidents vont aiguiser son esprit devant cette inégalité sociale. Dans l'île où il part en vacances, il n'y a que quelques pêcheurs de thon et des douaniers. Il constate que ces petits fonctionnaires fabriquent clandestinement des tapis en corde. « Tu ne sais rien, tu n'as rien vu », lui dit son père, qui trouve que, quand c'est juste, il ne faut pas juger, mais accepter. Et pour la première fois, il partage le sentiment joyeux et intense de se placer hors des normes. Le sens de la vraie vie est dans le pas de côté, écrit-il. Au quotidien, on craignait la présence des mouchards politiques. Planait pareillement la menace obscure et omniprésente des communistes, qui troublaient les fêtes de famille, car, dans la société portugaise, nombreux étaient ceux qui se déclaraient seulement républicains, ou tout simplement contre la situation. Mais c'est quoi être communiste, se demandait Georges. En 1956, les chars communistes entrent dans Budapest. Le père de Georges entraîne son fils dans une manifestation salazariste de soutien aux insurgés. Ce sera sa première manif et l'adolescent retiendra qu'il a manifesté pour la liberté. Il a 11 ans. En classe, l'enseignement religieux l'agace, d'autant que les Russes, l'année suivante, vont envoyer le premier Spoutnik dans le ciel, mais sans y rencontrer Dieu. Devant ces interrogations intempestives, son père le fait dispenser de cet enseignement. La classe se terminait chaque jour avec l'obligation de chanter l'hymne national à voix forte. Georges se contentait de marmonner. L'institutrice lui frappa si violemment les mains avec une règle qu'il revint à la maison avec les mains en feu. Ce qui déclencha une grande fureur de son père, qui, s'adressant à l'institutrice, lui intima l'ordre de ne plus jamais lever la main sur son fils. Moment fort pour Georges, qui gagnait un espace de liberté.
Le grand-père d'Antonio, un copain, possédait une bibliothèque ouverte aux enfants et qui contenait des ouvrages anticléricaux. La lecture est la seule voie du savoir et de la connaissance, disait ce grand-père. En 1963, c'est l'entrée à l'école navale où il va connaître le bizutage des anciens. Accepter d'être brisé pour mériter sa place, voilà ce qui ressemble étrangement à l'attitude religieuse du bonheur dans la souffrance et dans le sacrifice que j'avais auparavant rejeté, écrit-il. En janvier 1966, premier voyage de formation en Afrique. La guerre coloniale fait une entrée directe dans sa vie. Ayant mis pied à terre, il a sous les yeux des terroristes qui ont été torturés. Il revient de ce voyage conforté dans ses positions anticolonialistes et en pensant que ce sera le dernier dans cette région. Et en juillet 1967, il déserte.
Il se retrouve à Paris. Sa première tâche est de trouver du travail. Ce sera dans une association laïque à faire tourner deux vieilles machines offset qui impriment des publicités et le journal de l'association. Or, nous sommes dans les premiers jours de mai 68. Avec son copain Charlie, ils annoncent leur intention de se mettre en grève et d'occuper jour et nuit leur lieu de travail. Le matériel d'imprimerie et le stock de papier seront mis au service des comités d'action de Sancy.
Mai 68 terminé, Georges prend la route pour rejoindre une amie au Danemark. De retour, il parvient à obtenir une licence universitaire et s'inscrit à Sciences Po tout en travaillant pour manger. Mais il abandonne et trouve une place de plongeur dans un restaurant pour découvrir qu'il est plus à l'aise dans l'école de la vie. Par un concours de circonstances, le contact avec d'anciens marins, Georges et quelques amis vont passer clandestinement de Nantes jusqu'aux rives du Tage, des textes marxistes anti-autoritaires. Il faut contrer les idées passéistes du communisme portugais. Puis, avec un faux passeport plus vrai que vrai, c'est le voyage à Philadelphie aux États-Unis avec une amie américaine qui a connu mai 68. Mais cette dernière étant identifiée comme activiste d'extrême gauche par le FBI, il juge plus prudent de déménager et se réfugie à New York. Et de retour sur le vieux continent, Georges travaille comme électricien sur un chantier. On est en avril 1974 et c'est alors qu'éclate la révolution des œillets. Georges prend le train. À la frontière, on ne réclame pas les papiers. Est-ce la fin de la police ? De toutes les polices ?
Ne t'emballe pas, lui dit un copain. L'État est juste ébranlé. Mais rien n'est joué. Il en faut plus que ça. Dans cette chronique de la désobéissance, André Bernard nous parlait de l'ouvrage de Georges Valadas, Itinéraire du refus, paru aux éditions Chandaigne et Lima en 2025, tout récemment, le 31 mars.